Chers amis, chers camarades, bonjour. Tout d'abord, je tiens à saluer tous ceux qui nous ont rejoints ce dimanche à la fête de lutte ouvrière lyonnaise. Ils n'ont pas eu le plaisir d'entendre hier soir l'intervention de notre camarade Nathalie Arthaud, qui est partie prendre la parole à Montpellier. Il y a tout juste 10 ans, la faillite de Lehman Brothers à Wall Street a déclenché la plus violente crise économique depuis 1929. Elle a provoqué la paralysie du système bancaire mondial. Après s'être enrichi à travers l'immobilier et des montages financiers délirants, les banques étaient menacées de faillite. La panique s'est étendue à la bourse et aux entreprises. En quelques jours, les actions des principales entreprises se sont effondrées. Cette crise montrait la folie du système capitaliste. Les dirigeants de la planète étaient en panique. À l'époque, le secrétaire d'État au Trésor américain disait « La situation équivaut à un état de guerre. Pour les travailleurs du monde entier, la chute du cours des actions entraîna la fermeture d'usines, les suppressions d'emplois suivies de plans de compétitivité pour faire remonter le cours des bourses. Des dizaines de millions de travailleurs dans le monde ont été jetés au chômage. Aux États-Unis, plus de 7 millions de ménages ont perdu leur logement. Des pays entiers comme l'Islande ou la Grèce ont été ruinés. Pour renflouer les banques et les capitalistes, tous les gouvernements, de Obama aux États-Unis à Sarkozy en France, ont injecté des centaines de milliards de dollars d'argent public dans le système financier. Comme les États ne possédaient pas ces sommes astronomiques, bien sûr, ils les ont empruntées et auprès des banques. Ces masses d'argent ont fait gonfler la dette publique dans des proportions jamais vues. Non seulement les banques ont été sauvées sans être sanctionnées pour leur comportement, mais elles se sont enrichies en prêtant aux États venus à leur secours. Ces dettes, toujours plus grandes, servent de prétexte à tous les gouvernements pour imposer l'austérité, pour tailler dans les budgets des hôpitaux, des écoles, des communes et de tous les services utiles à la population. Partout, les classes populaires ont payé au prix fort la facture du sauvetage des banques. 10 ans plus tard, les conséquences de cette crise se font durement sentir. Il y a quelques mois, on nous répétait que l'économie repartait, que le chômage reculait, bref, que la crise était derrière nous. Il fallait déjà de sacrées lunettes déformantes pour oublier les 6 millions de chômeurs dans ce pays, pour ne pas voir que les emplois créés étaient plus précaires et plus mal payés qu'avant la crise, que les nouvelles générations vivaient plus mal que les anciennes. Mais depuis cet été, la fête est finie, comme l'a titré une revue. Autrement dit, même du point de vue des capitalistes, les perspectives de croissance économique ont fait long feu. Ouais, pour les actionnaires et les banquiers, ça va. Merci. Le cours des actions à la bourse continue de progresser. Les dividendes des actionnaires continuent de battre des records. 500 milliards de dollars de dividendes ont été distribués dans le monde dans le seul deuxième trimestre 2018. L'an dernier, Bernard Arnault, le patron de LVMH, a vu sa fortune s'accroître de 1300 euros toutes les 2 secondes. Une somme que bien des travailleurs ou des retraités ne gagnent pas en un mois. Mais toutes ces fortunes sont le résultat d'opérations fusion-acquisition, de rachats d'actions et en même temps d'aggravation des cadences et de l'exploitation. Elles ne sont pas le fruit d'investissements productifs. Le parasitisme des capitalistes s'est aggravé depuis 10 ans. À ses débuts, le capitalisme développait des capacités de production, des infrastructures, des voies de chemin de fer. Aujourd'hui, la bourgeoisie ne développe que quelques secteurs très rentables et se contente de piller ce qui existe. L'effondrement du pont de Gênes à la mi-août illustre ce parasitisme. La riche famille Benetton, propriétaire de la société concessionnaire de l'autoroute, encaissait les péages depuis des années. Par rapacité, elle n'a pas réalisé les travaux exigés par les experts. L'État a renouvelé la concession sans jamais imposer que les travaux soient accélérés. Résultat, 43 morts, des dizaines de blessés, et des centaines de personnes chassées de leur logement. Voilà où mène la logique du profit. Voilà le rôle social soi-disant utile des actionnaires. Depuis la faillite de Lehman Brothers, la spéculation financière est repartie de plus belle. Les milliards injectés par les États dans l'économie ne servent pas à construire des logements, à fabriquer des médicaments ou à produire de l'énergie en polluant moins. Ils sont à la recherche du meilleur coût financier. Comme les requins flairent le sang, les financiers flairent les points faibles de chaque État. Au fil des annonces politiques ou des résultats économiques, ils foncent sur la Grèce, la Turquie ou l'Argentine, provoquant la fuite de capitaux et déclenchant l'inflation. Actuellement, les travailleurs turcs ou argentins paient les pots cassés. Mais c'est toute la planète qui est menacée d'un nouveau crash, encore pire que celui de 2008. Cette situation économique, dominée par le parasitisme de la finance, se répercute sur la vie politique de chaque pays. Dans toute l'Europe, les plans d'austérité, le chômage, le désespoir face à l'avenir nourrissent les courants nationalistes, xénophobes et anti-européens. En Hongrie, en Autriche, en Italie, des partis d'extrême droite sont au pouvoir. Ces partis ont utilisé la question des migrants pour gagner des voix en spéculant sur les peurs et les préjugés. Mais une fois au pouvoir, ils se servent des migrants comme bouc émissaire pour faire oublier les autres problèmes. En Autriche, le gouvernement a allongé le temps de travail pour porter la journée à 12 heures. En Italie, Salvini, le Premier ministre, a fermé les ports italiens aux bateaux de secours aux migrants. Ces discours encouragent tous ceux qui attaquent physiquement les étrangers, comme cela s'est produit cet été. Par contre, la Ligue et le parti 5 étoiles, qui se partagent le pouvoir, ont déjà enterré les promesses faites aux travailleurs de lutter contre la précarité. Pour Salvini, c'est bien de lutter contre la précarité, mais il ne faut pas que cela nuise aux entreprises. Comme les autres, la Ligue et les 5 étoiles sont à plein ventre devant les patrons et sont des ennemis des travailleurs. Eh bien, cela doit être un avertissement pour tous ceux, y compris parmi les classes populaires, qui se laissent entraîner par les sirènes de ces politiciens. Ils se prétendent anti-système, mais ils sont avant tout anti-ouvriers. Un autre avertissement est venu d'Allemagne ces dernières semaines. À la suite d'une rixe ayant entraîné la mort d'un Allemand, divers groupes d'extrême droite, y compris des néo-nazis encouragés par les succès électoraux du parti d'extrême droite AfD, ont convergé vers la ville de Chemnitz. Ils se sont livrés à des chasses à l'homme contre des étrangers, un restaurateur juif, des militants de gauche. D'autres manifestants d'extrême droite dans la même ville ont trouvé le soutien du ministre de l'Intérieur. Ils ont trouvé des complices dans la police elle-même. Même s'il y a eu des contre-manifestations avec beaucoup de monde à Chemnitz, ce qui est réjouissant, ces événements prouvent que le climat politique peut se détériorer très vite. Les succès électoraux de l'extrême droite peuvent se transformer très vite en coup de poing ou en matraque. Aujourd'hui, à Chemnitz, l'extrême droite vise des migrants, des musulmans, des juifs. Demain, comme les fascistes le firent dans le passé, ce sont les militants ouvriers ou les travailleurs qui refusent de se laisser faire qui seront attaqués. C'est pourquoi nous devons combattre ceux qui, dans les rangs ouvriers, voient dans les Le Pen, les Salvini et compagnie, une solution à leurs problèmes. Nous devons les convaincre qu'ils se tirent une balle dans le pied. Nous devons combattre autour de nous les préjugés du style « on ne peut pas accueillir toute la misère du monde ». Il n'y a pas assez de travail pour tous, car ces mensonges renforcent les pires ennemis des travailleurs. Ce n'est pas seulement par solidarité que nous devons réclamer la liberté de circulation et d'installation de tous les réfugiés, qu'ils fuient la guerre ou la misère. C'est notre intérêt de casse le plus immédiat. Opposer les travailleurs les uns aux autres, opposer les Français aux étrangers, les fonctionnaires à ceux du privé, ceux qui ont un CDI à ceux qui sont dans l'intérim, les femmes aux hommes, ceux qui ont un emploi à ceux qui en cherchent, c'est la grosse ficelle utilisée par les patrons pour tirer les salaires vers le bas et faire travailler tout le monde plus durement. À toutes les époques, les patrons ont cherché à dresser les travailleurs dits nationaux contre les étrangers. En face, le mouvement ouvrier a opposé le mot d'ordre « Travailleurs de tous les pays, unissez-vous ». Les premiers militants socialistes puis communistes ont opposé l'internationalisme au patriotisme, le drapeau rouge au drapeau tricolore. Eh bien, nous devons retrouver ces valeurs du mouvement ouvrier. Nous devons nous démarquer du chauvinisme et du nationalisme que tous reprennent à leur compte, y compris les partis dits de gauche. Tous ceux qui montrent du doigt l'étranger, l'Europe ou l'Allemagne exonèrent les patrons bien français de leurs responsabilités dans la crise et le chômage. Le grand patronat n'a besoin de l'Union européenne ni pour mettre en concurrence les travailleurs, ni pour aggraver l'exploitation. Ce ne sont pas les traités européens qui poussent les patrons à baisser les salaires. C'est leur rapacité à la loi de la jungle capitaliste. Ce ne sont pas les migrants venus d'Afrique ou de Syrie, ni les travailleurs détachés venus de Pologne, qui sont responsables des 3000 emplois supprimés chez Carrefour. C'est l'avidité sans limite des actionnaires. Il faut que les travailleurs conscients disent cela autour d'eux. Il faut opposer la lutte de classe au souverainisme. Les conséquences politiques de la crise économique ne se traduisent pas seulement par la montée des idées réactionnaires. Elles se traduisent par les attaques incessantes contre les travailleurs, les retraités, les chômeurs, pour permettre à la bourgeoisie d'accaparer toujours plus de richesses. En France, Macron s'y emploie depuis son installation à l'Élysée. Il poursuit en aggravant la politique de Sarkozy puis de Hollande. Les ordonnances démolissant le code du travail ont poursuivi en pire la loi El Khomri. Les objectifs étaient les mêmes, faciliter les licenciements, réduire les recours des travailleurs au prud'homme et leurs moyens légaux pour se défendre. Comme ses prédécesseurs, Macron a augmenté la CSG, faisant les poches des retraités. Il veut renforcer le contrôle des chômeurs qu'il accuse de ne pas chercher du travail, sans jamais dénoncer les Carrefour et compagnie qui suppriment les emplois par milliers. Il prépare une nouvelle dégradation des conditions de départ à la retraite. Bien sûr, Macron cultive son style personnel. Il prétend avoir balayé le vieux monde politique alors qu'il mène la vieille politique pro-patronale. Surtout, il ne rate pas une occasion d'étaler son arrogance et son mépris pour les travailleurs et les gens modestes. Avant l'été, il y a eu son tweet provocateur sur le pognon de dingue dépensé pour les pauvres, lui dont toute la politique est destinée à arroser les riches. Et le week-end dernier, il a osé lancer un jeune horticulteur au chômage. Il suffit de traverser la rue pour trouver du travail. Il faut vraiment n'avoir jamais essuyé une dizaine de refus, n'avoir jamais attendu en vain une réponse à un CV, ne s'être jamais levé pour une mission d'intérim annulée au dernier moment pour tenir de tels propos. Macron suscite une haine profonde de l'opinion populaire. Eh bien, cette haine, il ne l'a pas volée. Mais Macron n'est rien d'autre, au fond, qu'un serviteur du capital qui fait là où on lui dit de faire. Macron n'est ni différent, ni plus fort que ses prédécesseurs. Il arrive simplement après eux. Dans un contexte où la concurrence que se livrent les bourgeois pour accaparer les richesses créées par les travailleurs est de plus en plus âpre. Pour les faire reculer, pour défendre leur droit à l'existence, les travailleurs vont devoir leur opposer leurs forces collectives. C'est ce qu'ont commencé à faire les cheminots au printemps. Durant plus de 3 mois, la vie politique du pays n'a été marquée ni par l'affaire Benalla, ni par le cinéma des députés ou les sénateurs de l'opposition ont déployé autour de cette affaire. Elle a été marquée par la grève de plusieurs dizaines de milliers de cheminots. En s'attaquant aux cheminots, Macron voulait offrir des lignes ou des services rentables à l'appétit des capitalistes. Pour pouvoir leur imposer davantage de polyvalence, pour pouvoir les vendre au privé en même temps que les services, pour pouvoir les licencier plus facilement, il fallait supprimer le statut des cheminots. Tout cela, ce ne sont pas les directives européennes, ce sont les exigences patronales. Macron y a ajouté sa touche. Il croyait pouvoir écraser les cheminots en peu de temps. Il a échoué, car ils lui ont opposé une forte résistance pendant plus de 3 mois. Pourtant, les cheminots n'ont pas réussi à empêcher le passage en force de la loi ferroviaire. Pour y parvenir, il aurait fallu que la grève touche le patronat au portefeuille, qu'elle soit plus massive, plus explosive, et qu'elle menace de s'étendre à d'autres catégories de travailleurs. Cela ne s'est pas produit. L'une des leçons de cette grève est qu'on ne peut pas gagner à l'économie. Les directions syndicales ont proposé aux cheminots de faire une grève perlée, avec un calendrier étalé sur 3 mois. Elles ont convaincu les grévistes que cette tactique était un moyen de faire une grève à l'économie. On doit constater que la grève à l'économie ne permet pas de gagner. Face à un gouvernement et un patronat déterminés, les travailleurs doivent être encore plus déterminés. Pour faire reculer les patrons, il faut qu'ils aient peur de tout perdre. Il faut menacer leurs profits et leurs propriétés sur les entreprises, comme en 1936. Ce n'est absolument pas la stratégie des directions syndicales dont l'objectif est d'obtenir des négociations. Or, le temps des négociations et des réformes est fini, si même il n'a jamais existé. Réclamer du dialogue social, proposer de meilleures réformes, se plaindre de ne pas être écouté ou reçu à l'Élysée ou Matignon, c'est tourner le dos aux intérêts des travailleurs et finalement c'est les trahir. La grève des cheminots a montré que la force des travailleurs reste intacte, à condition de se donner les moyens de la mobiliser. Si 30 ou 40 000 cheminots en grève ont marqué l'actualité, on peut imaginer la force de centaines de milliers, voire de millions de travailleurs en grève. Sans les cheminots, les trains ne roulent pas. Sans les travailleurs, la société ne fonctionne plus. C'est cela la force sociale des travailleurs. Cette force, la classe ouvrière l'a montrée à de nombreuses reprises dans le passé. Elle a été capable de prendre la tête de grandes insurrections. Elle a été capable de renverser des régimes, de prendre le pouvoir et de le réorganiser sur de toute autre forme. Tout le problème est que cette force ne soit pas simplement un levier utilisé par les directions syndicales pour obtenir quelques concessions, qu'elle ne soit pas juste une base électorale pour des politiciens qui veulent arriver au pouvoir. Notre conviction à nous, communistes révolutionnaires, c'est que les travailleurs, parce qu'ils produisent tout dans la société, doivent en prendre la direction. Les capitalistes ont déjà plongé des pays entiers dans la guerre. Entre le chaos économique, les guerres, la famine, la pollution de l'air, la destruction de la nature ou le réchauffement climatique, on ne sait pas quelle menace est la pire. Laquelle aura les effets les plus irréversibles. Toutes ces menaces ont la même origine, la soif de profit sans limite de la petite minorité de grands bourgeois qui possèdent les entreprises ou les banques. On ne résoudra aucun des problèmes qui se posent à la société aujourd'hui sans renverser le pouvoir de cette bourgeoisie. sans lui arracher le contrôle sur toutes les entreprises pour les mettre au service de la collectivité. Et le pouvoir, nous ne l'obtiendrons pas avec un bulletin de vote, nous ne l'obtiendrons qu'à travers une révolution. Cela peut sembler très loin de la conscience des travailleurs aujourd'hui et de nos préoccupations immédiates, les bas salaires, le chômage de masse. Mais en réalité, tout cela est lié. En se défendant contre telle ou telle attaque, les travailleurs peuvent prendre conscience que l'État, sous tous les gouvernements, est toujours au service des patrons, que la police, la justice prennent toujours fait et cause pour les patrons, que l'État est là pour défendre la propriété des capitalistes. Mais les travailleurs n'en prendront pas conscience tout seuls. C'est justement là le rôle de militants révolutionnaires qui est indispensable et irremplaçable. Implanter cette idée que les travailleurs ne pourront pas améliorer leur sort et éviter d'être plongés dans la pauvreté sans renverser le pouvoir du patronat, sans l'exproprier, c'est la raison d'être des révolutionnaires. On ne pourra pas combattre le chômage sans interdire les licenciements, sans imposer à l'échelle d'une entreprise, d'un groupe, d'une ville, la répartition du travail entre tous, sans diminution de salaire. Selon les économistes eux-mêmes, l'inflation est en train de repartir à la hausse. Les salaires, les pensions, eux, sont bloqués ou même diminuent. Si on ne veut pas être inéluctablement appauvri, il faudra imposer l'indexation des salaires sur les prix. Les patrons, petits ou grands, crient déjà que ce n'est pas possible, qu'ils n'ont pas les moyens, qu'ils sont soumis à la concurrence. Mais nous non plus, nous n'avons pas les moyens. Nos factures, nos loyers, la nourriture, l'essence, tout augmente. Il faut imposer à la bourgeoisie de rogner ses profits pour augmenter les salaires. Comme elle ne voudra rien lâcher, ce sera un combat à mort. Tout cela, il faut le dire aux travailleurs, ne pas leur raconter d'histoire, leur faire croire que leur sort pourrait s'améliorer avec un autre gouvernement ou une autre politique. Chaque lutte partielle, chaque combat de telle ou telle catégorie de travailleurs doit être mené le plus loin possible. Il doit permettre au maximum de travailleurs de comprendre que nos conditions d'existence ne pourront être préservées si on ne renverse pas le pouvoir de la bourgeoisie. Comme l'exprimait déjà un congrès de la Première Internationale, la classe ouvrière prendra conscience de cette vérité que, si elle veut vivre, le capitalisme doit mourir. Ce programme, le programme communiste, c'était celui des partis ouvriers à leurs origines. Aujourd'hui, il n'y a plus de partis ouvriers. Beaucoup de partis se prétendent aujourd'hui l'opposition à Macron. Parmi ceux qui se réclament de la gauche, de Génération à la France insoumise, en passant par le PCF, tous prétendent réformer le capitalisme, modifier telle ou telle institution pour améliorer notre sort, sans renverser le système. Tous prétendent qu'en remplaçant Macron par une autre équipe de ministres ou de députés, notre vie sera meilleure. Encore et encore, ils nous proposent une énième mouture de l'union de la gauche. Nous avons déjà payé trop cher ces illusions électorales. Ce sont les échecs et les trahisons répétées de cette gauche au pouvoir, de Mitterrand à Hollande, qui ont provoqué l'écœurement, la démoralisation et qui ont fait le lit de l'extrême droite. Face aux politiciens qui veulent ressusciter la fausse opposition entre la gauche et la droite, face à ceux qui veulent la remplacer par une opposition tout aussi fausse entre les partisans de l'Europe libérale et ceux du souverainisme et du nationalisme, nous devons faire entendre le camp des travailleurs. Nous devons réimplanter la conscience de classe, la conscience que la société est divisée en deux camps aux intérêts irréconciliables. La conscience que tant qu'on n'aura pas renversé le pouvoir des Arnaud, des Vinci, des Benetton et de tous les autres, la société sera entraînée vers le précipice. Nous devons reconstruire un parti communiste et révolutionnaire. Nous allons devoir mener ces discussions autour de nous dans les prochains mois. L'année qui vient sera en partie marquée par la campagne des élections européennes. En dépit des idées réactionnaires qui progressent, nous devrons profiter de cette campagne pour développer ces idées de lutte de classe. Nous devrons rassembler les travailleurs au boulot, parmi nos voisins, dans la famille, qui ne cherchent pas un sauveur suprême, mais qui sont convaincus que leur classe représente l'avenir de toute la société. Alors, bon courage pour mener ces discussions, et en attendant, profitez des derniers instants de cette fête.
Mesdames et messieurs de la terre,